Depuis que je vis dans le Lot, monsieur le président de l'association des élus, j'ai réadapté mon régime alimentaire. Le Parisien mange plutôt vers 13h30, le Lotois mange plutôt vers 12h30. Donc depuis trois quarts d'heure à peu près, j'ai faim. Et je vous promets que je vais du coup essayer de ne pas être trop long. Monsieur le président de l'association des élus, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames, messieurs. C'est donc la deuxième fois pour moi et c'est un vrai plaisir, l'occasion de clore ce congrès. Avec plaisir et puis avec un sentiment de, je dirais, de responsabilité, de respect et de sympathie. De responsabilité d'abord parce qu'on le voit encore ce matin dans les échanges, vos attentes à l'égard de l'État que je représente sont très grandes et qu'il est essentiel dans le cadre de cette responsabilité que nous échangions de la façon la plus intense. C'est ma responsabilité au niveau local, c'est aussi ce que le gouvernement fait et doit faire au niveau national, en tout cas responsabilité. Respect bien sûr, parce que c'est le sentiment que votre mandat m'inspire. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de conseiller municipal. Et donc, je sais bien ce que c'est le temps et l'exigence sur votre temps personnel que vous avez apporté. Et notamment parce que, au-delà des complexités réglementaires, au-delà des difficultés de normes, etc., vous avez aussi de temps en temps, et nous l'avons tous, à affronter une certaine agressivité ou d'exigence de nos administrés qui confinent parfois un peu au consumérisme. Et puis, responsabilité, respect, et puis aussi beaucoup de sympathie, je ne le cache pas. C'est aussi mon tempérament, même un peu d'amitié pour certains d'entre vous déjà, parce qu'il nous arrive de passer de très bons moments ensemble, et ça ne rend pas le métier désagréable. Je veux aussi dire, à l'occasion, la fierté que j'ai de travailler avec la si bonne équipe que j'ai autour de moi. Voilà, je n'ai pas mentionné dans l'adresse les services de l'État au sens large, mais je veux le dire, au service de la sécurité, de la légalité, du développement économique, de l'appui au territoire, ils sont là. Vous êtes exigeant à leur égard, de temps en temps, vous aimez bien leur rentrer dedans, etc. Mais je sais que c'est la contrepartie de l'attente que vous avez à leur égard. Et comme ils ne sont pas faits uniquement de textes et d'algorithmes, mais plutôt de chair, ils apprécieront que vous leur disiez de temps en temps votre reconnaissance. J'ai parlé de l'État, alors je vais employer un terme pompeux, mais rassurez-vous, je vais arrêter très vite. En France, l'État a fait la nation. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On a évoqué l'Allemagne tout à l'heure. Mais en France, il y a quelque chose qui fait ce qu'on appelle la France. Si nous nous sentons tous français sans gommer nos différences ou la diversité de nos terroirs, c'est parce qu'il y a une éducation nationale, une police nationale, une gendarmerie nationale, une administration de la culture, un réseau des préfectures, des finances publiques, de l'écologie, de l'agriculture, etc. C'est ce qu'on appelle les services déconcentrés d'État. C'est d'ailleurs une réalité qui a énormément changé au cours des 30 dernières années. Bien sûr, depuis notamment la mise en œuvre de la décentralisation. Pour certains d'entre vous, anciens fonctionnaires de l'État, vous le savez, l'État a modifié son visage et sa façon de travailler. Et puis, les collectivités locales, vous en êtes l'incarnation, elles ont pris une place déterminante dans la vitalité de notre pays. Et on entend parfois, y compris ce matin, parfois une lassitude qu'il faut entendre des élus à l'égard des contraintes qui sont les leurs, mais c'est aussi la contrepartie de ce qu'est la décentralisation, c'est-à-dire de la quantité de pouvoir et de responsabilité qu'elle vous a confié. Je n'ai aucune nostalgie pour ma part du préfet d'avant 1981 qui décidait à votre place. Et je trouve très sain que vous ayez tant de pouvoir de décision. Mais finalement, c'est tout ça qui fait l'État. L'État, au sens de l'État de droit, l'État, c'est vous aussi, c'est pas simplement moi. Quand j'entends de temps en temps des élus nationaux critiquer l'État, je ne comprends pas. Ils font partie de l'État. Et vous, les maires, chaque fois que j'arrive chez vous, je vous salue comme les premiers représentants de l'État, comme les premiers magistrats publics. C'est vous qui incarnez l'État autant que moi. Je veux juste, sans être trop long, évoquer quelques enjeux qui nous rassemblent, qui nous obligent aussi à échanger, sans rentrer dans ce qu'on a évoqué ce matin. Un mot d'abord sur les transformations, ça vous surprendrait si je ne le faisais pas. Les nombreuses transformations que le Parlement et le gouvernement ont engagées au cours des 16 derniers mois. Moralisation de la vie publique, réforme du Code du travail, réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, loi Élan, loi sur la société de confiance, plan biodiversité, programme Action Cœur de Ville, stratégie contre la pauvreté, plan santé. Toutes ces transformations sont en cours pour une partie, déjà à l'œuvre pour d'autres. Elles n'ont pas produit tous leurs effets. Pour certaines d'entre elles, et faisons l'introspection chacun dans notre cœur, quelles que soient nos convictions, nous savons que pour la plupart d'entre elles étaient nécessaires depuis des dizaines d'années et qu'il fallait les affronter. Ces enjeux qui sont en face de nous, internationaux, nationaux, locaux, ils sont terribles, ils sont énormes. Et je pense que ça nous impose de réactualiser la catégorie des enjeux sur lesquels nous nous affrontons. On ne se bat pas beaucoup, heureusement, mais dans lesquels nous échangeons entre nous, État, collectivité, et aussi les enjeux sur lesquels vous vous affrontez entre vous. Mais j'y reviendrai. Ces transformations nombreuses, elles concernent aussi les services publics et la façon dont les usagers sont pris en compte et dont leurs attentes sont traitées. Dans nos territoires peu denses, enclavés, où la circulation est un enjeu, où la couverture numérique est encore en construction, on ne peut pas calquer l'organisation des services publics sur celle des métropoles et des grandes villes. Ça tombe bien, ce n'est pas ce qui se fait. De ce point de vue, je suis parfois surpris quand j'entends présenter la face la plus sombre de notre organisation des services publics dans notre département, parce que je pense que nous ratons l'occasion de faire savoir autour de nous à quel point, au contraire, nous avons des atouts énormes du point de vue des maillages des services publics. Je viens pour y avoir passé du temps de villes de banlieue où les services publics ne sont pas accessibles, où les transports sont un problème, où l'accès à la santé est un défi permanent. Et je pense qu'il faut, sans gommer les difficultés ni s'inquiéter pour l'avenir, je pense qu'il faut quand même beaucoup plus prendre conscience des atouts fantastiques que nous avons ici et les faire valoir et les faire savoir à l'extérieur. Alors bien sûr, ces réseaux, ils s'adaptent, ils doivent s'adapter. La carte territoriale des trésoreries s'adapte. La carte territoriale des différents services publics s'adapte, bien sûr. Et quand ça vous arrive à vous, maire, c'est très pénible d'entendre parler de la fermeture d'une trésorerie. Mais la question que nous devons avoir au bout du compte, c'est est-ce que le service va continuer d'être rendu? Est-ce qu'avec les efforts de restructuration de la poste, le service continue d'être rendu à nos concitoyens? C'est bien sûr le cas des écoles, mais j'y reviendrai dans un instant. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut bien sûr lutter pour défendre l'existence de services publics en quantité et en qualité, mais il faut aussi ne pas dire à l'extérieur que les territoires ruraux sont désertés, sont abandonnés, parce qu'ils ne le sont pas. Ce maillage, il est bien sûr fragile, et il faut le faire évoluer. Alors, nous avons des atouts dans le Lot, et notamment, je l'ai découvert en revenant dans le Lot, le réseau de nos maisons de services au public. On en a inauguré, on en inaugure dans quelques jours, une 18e à Gourdon. On a inauguré une formule nouvelle de rendre le service public avec le quart des services publics itinérants. Ce réseau-là, il est ce qu'attendent nos concitoyens. C'est-à-dire, nos concitoyens ne veulent pas forcément qu'il y ait un bureau de poste à 100 mètres, et puis le bureau de la CAF à 200 mètres, et puis la sous-préfecture à 300 mètres. Nos concitoyens, ils veulent trouver une réponse avec en face des gens qui sont capables de leur apporter une réponse. C'est un peu ce que permettent les MSAP, mais si elles sont perfectibles. C'est aussi ce que le Premier ministre est venu nous proposer de faire quand il est venu dans le Lot pendant 3 jours en décembre dernier, en donnant carte blanche aux acteurs locaux pour essayer d'imaginer des nouvelles façons de faire le service public. Alors, on a marqué une étape importante il y a quelques jours sur le bassin de Cahors. Thomas Cazenave, qui est le délégué interministériel de la transformation publique, est venu. On a inauguré ce quart itinérant des services publics. C'est une formule qui, d'ailleurs, existe ailleurs en France, dans l'Aisne. Donc, nous n'avons pas été totalement révolutionnaires. Ce que nous avons fait tout de même, c'est que désormais, dans ce quart, il n'y aura pas simplement un opérateur, mais deux, un binôme entre un animateur qui vient des MSAP du Grand Cahors et puis quelqu'un qui vient de l'Union départementale des allocations familiales. D'autres pistes de la carte blanche sont en cours de travail. La formation d'agents polyvalents, je remercie beaucoup les maires qui ont accepté que des secrétaires de mairie soient formés à avoir ce rôle qui permet de renseigner en première ligne parce qu'ils ont eux-mêmes plus d'informations. Aujourd'hui, vos secrétaires de mairie, comme vous-même, parfois vous souffrez d'être interpellés par vos administrés sans avoir les éléments d'information, de formation et de réponse. Et donc, c'est ça que nous allons organiser sur la durée avec ces agents polyvalents. On va essayer aussi de faire en sorte que les opérateurs travaillent mieux ensemble. Ça peut sembler bizarre en 2018, mais la CAF, la CEPAM, Pôle emploi, avaient aujourd'hui encore beaucoup de mal à échanger leurs informations et on expérimente l'échange de données. Et puis, on va essayer de travailler d'une façon très innovante, pour le coup, en créant une start-up. Les start-up, ce n'est pas fait que pour Paris et les métropoles. Une start-up de territoire qui va être dédiée à la mobilité inclusive dans nos territoires ruraux. Voilà. Tout ça, c'est la marque d'un service public qui n'est pas figé, qui doit évoluer, qui doit se transformer, bien sûr, mais pas pour des rationalisations, pour rendre un bon service à nos concitoyens, aux vrais usagers du service, ceux qui sont là, ceux qui en ont besoin et qui nous disent qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément bien organisé. Donc changer, ce n'est pas forcément changer pour changer, c'est aussi changer pour mieux servir. C'est d'ailleurs une des grandes valeurs du service public. Ce maillage, on en a beaucoup parlé, c'est aussi celui des intercommunalités. J'ai dit tout à l'heure, en synthèse et en quelques mots, tous mes encouragements à vous, les maires, et aux présidents d'intercommunalité pour faire vivre ces structures nouvelles, ou en tout cas dont le périmètre a changé. L'un des intervenants a dit tout à l'heure qu'il fallait se donner du temps. En France, on est parfois très doué pour se critiquer nous-mêmes et parfois pour se tirer une balle dans le pied. Mais je pense que dans quelques années, quand on se retournera sur ce que quelques-uns ont appelé des intercommunalités XXL, je ne sais pas si 40 000 habitants c'est XXL ou 79 communes c'est XXL, mais certains diront « attention, touchez pas à mon intercommunalité si vous voulez la changer » parce qu'on y est très attaché, parce que depuis 10-15 ans, on travaille dans le bassin de Caux-Val d'Or, dans ce périmètre-là, ou dans le bassin du Grand Figeac, ou du Grand Cahors, ou de Quercy-Blanc, et surtout n'y touchez pas. Donc il faut qu'on veille à respecter aussi l'échelle de temps qui permet de se caler. Voilà. Elles sont récentes, ces intercommunalités, et il faut, je pense, leur faire confiance. Ce maillage, c'est aussi celui des écoles. La question reste une question sensible dans notre département. Encore hier, à l'ERM, j'ai été interpellé sur cette question des écoles. Je veux soutenir les maires, c'était le cas en l'occurrence d'ailleurs, qui affrontent la réalité. Ceux qui veulent se dire que si on ne se met pas ensemble autour de la table pour construire l'école de demain, on ne gardera ni l'école d'hier, ni celle d'avant-hier. On fermera parce que les parents iront ailleurs et les enfants iront ailleurs. Donc je voudrais saluer en l'occurrence le maire de l'Herme et le maire des Junies, pardon, et le maire de la Bastide-du-Vert qui essaient de travailler ensemble pour imaginer des solutions. Je veux saluer tous les maires qui, depuis plusieurs mois, seuls et parfois à notre invitation ou en notre présence, mais souvent seuls, ont commencé à se mettre au travail pour regarder là où les territoires sont critiques et fragiles, là où l'école est menacée, comment faire pour construire l'école de demain. J'aurais, mais je l'avais déjà dit l'an dernier, la fierté d'aller inaugurer à Saint-Souzy dans quelques jours un exemple de coopération entre plusieurs communes qui montre qu'on peut construire une école durable. Je le dis, c'est d'autant plus important qu'on voit poindre ici ou là des initiatives. Allez, ça va être le moment un peu polémique de mon intervention. Des initiatives que je qualifierais de baroques. Alors sans doute parfois pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on ne s'y est pas bien pris pour préparer des fermetures d'écoles, mais ça renvoie à mon premier point, faisons-le. Parce qu'on ne s'y est pas bien pris, on pourrait imaginer aujourd'hui qu'on peut créer une école privée hors contrat, financée sur fonds publics. La loi l'interdit, deux types de lois l'interdit. D'abord les grandes lois scolaires, elles protègent la liberté d'enseignement et donc la liberté de l'école libre. C'est très bien, mais pas sur fonds publics. Les fonds publics sont là pour financer l'école de la République et les écoles privées sous contrat. Mais les écoles privées hors contrat ne doivent bénéficier d'aucun financement public. La loi l'interdit doublement. C'est que ces crédits-là, ce sont les crédits qui sont versés par les contribuables pour le fonctionnement des services publics normaux. Et donc, quand je vois qu'on a créé ou qu'on imagine de créer pour 10 enfants, mais parfois pour 5 ou 3, on n'est pas sûr, 4 enfants, une école privée hors contrat parce que quelques parents et parfois peut-être quelques élus ne veulent pas accepter que ça se passe dans l'école d'à côté, je dis qu'on prend des risques importants, y compris en termes de cohérence de notre légalité républicaine. Donc je le dis et j'assumerai mes décisions difficiles sur ce sujet. Un mot très rapide sur la sécurité, juste pour vous dire que je présenterai au début de l'année prochaine des chiffres précis, donc rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Nous restons aujourd'hui le deuxième département le plus sûr de France, le deuxième ou un des plus sûrs, pardon, mais il n'y a aucun motif de fierté à en retirer. Nous sommes, par la taille de notre population, par le manque de sensibilité des quartiers que nous avons, etc., très protégés de ce qui sont les violences urbaines. Nous le devons quand même beaucoup à votre vigilance, à vous, maires, qui êtes les premiers officiers de police judiciaire, et nous le devons aussi au dévouement des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Je veux les remercier aujourd'hui particulièrement devant vous. Nous avons des chiffres qui varient d'une année sur l'autre. Les cambriolages nous ont beaucoup inquiétés l'an dernier. Ils baissent de façon significative depuis 12 mois, et tant mieux. Nous avons en revanche une recrudescence des escroqueries, de la délinquance économique et financière. Elle se passe souvent sur Internet. Au passage, ça veut dire que de temps en temps, on arrive à accéder à Internet, et tant mieux. Et merci, pardon, pour les efforts que nous allons continuer de faire ensemble pour que ça marche. Mais il faut être vigilant là-dessus. Nous faisons des campagnes de sensibilisation. Aidez-nous aussi à faire ces campagnes pour éviter ces comportements tout à fait anormaux. Un mot sur la violence routière. Le Lot est là, malheureusement, un des départements où le nombre d'accidents matériels et mortels rapporté à la population est le plus élevé de France. Nous sommes le sixième. Il y a donc toujours des chiffres qui varient. Heureusement, d'une année sur l'autre, ils peuvent être plus faibles, mais ils sont toujours terribles. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. L'alcool reste malheureusement le premier facteur. Il m'arrive régulièrement de consulter des statistiques de la police et de la gendarmerie, 2 grammes, 2 grammes 5, et je prends le volant, c'est insupportable, surtout quand il y a quelqu'un en face. Les stupéfiants, qui sont une plaie, mais pas simplement dans la jeunesse, je regarde là aussi les statistiques de ceux qui sont pris en consommation de cannabis ou de cocaïne, ça n'est pas l'effet de simplement de nos enfants. Et puis l'inattention, le téléphone portable, le GPS, et toujours la vitesse. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui, évidemment, la mesure qui a fait le plus de débat. Il est normal qu'elle ait fait du débat. Elle est entrée en vigueur. Nous l'appliquons aujourd'hui. Nous nous efforçons tous de la respecter. Le passage de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. Ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est qu'il faut être prudent sur l'interprétation des chiffres. Ils sont pour l'instant plutôt bons, mais je ne caracole absolument pas. Et nous ferons un bilan, comme le gouvernement l'a souhaité, sur 1 an et sur 2 ans. Mais évidemment, si nous épargnons une vie, si nous épargnons un accident grave, nous pourrons être fiers de l'avoir fait. Je veux ensuite rendre honneur aux sapeurs-pompiers du Lot. Je ne peux pas ne pas le faire, pardon, après cet été chaud et sec qui a été exceptionnellement prodigue en feu de végétation pour nous cette année. Vous le savez, par 3 fois cet été, à Livernon, à Marcillac, et puis et surtout à Cajarc le 1er et le 2 septembre, nous avons connu des incendies, comme le Lot en avait déjà connu par exemple en 2003, mais qui ont pris des proportions considérables. Alors l'an dernier, nous étions allés aider, je dis nous, pardon, les sapeurs-pompiers du Lot étaient allés aider d'autres départements face à des feux de forêt terribles. Cet été, c'est nous qui avons bénéficié de la solidarité d'autres départements, 5, et puis aussi de moyens aériens importants. Et je dois dire que derrière l'inquiétude, j'ai aussi, avec le président du conseil départemental, le soulagement, je dirais, de constater que notre système, notre armature des sapeurs-pompiers du Lot a fonctionné avec ce soutien, avec bien sûr l'implication des maires. Je remercie les élus aussi qui sont impliqués. Mais vous savez, Madame la députée l'a évoqué, que cette armature, elle ne repose que sur le volontariat. Et bien sûr, nous devons tous, je pense aussi aux employeurs que sont l'État, faire beaucoup plus d'efforts pour aider nos concitoyens à s'engager dans le volontariat. Alors, il y aura des plans que le ministre d'État a annoncés, mais il y a aussi, de notre part à chacun, des efforts à faire pour que le volontariat continue d'aider à faire fonctionner les sapeurs-pompiers du Lot. Je voulais en tout cas les mettre à l'honneur devant vous. Je ne vais pas être bien long sur la question des ressources dont vous disposez. Je le redis à chaque occasion de réunions nombreuses, donc je ne vais pas encore le refaire aujourd'hui. Après 4 ans de baisse des dotations de fonctionnement qui ont été stabilisées, qui ne baissent pour personne. Bien sûr, la DGF qui peut varier, mais au niveau lotois, elle a augmenté de 0,5%, donc elle n'a pas baissé. Et entre les communes, il peut y avoir des variations, mais elles s'expliquent par des critères parfois nombreux. Qu'on est toujours prêt, avec les sous-préfets, avec Madame la directrice départementale des finances publiques, d'essayer de vous expliquer. Stabilité des ressources de fonctionnement, contrat proposé au département pour faire évoluer les dépenses de façon maîtrisée. On n'y est pas arrivé, Monsieur le Président, ensemble. Je pense qu'on a un regret commun parce que ce n'est pas notre bonne volonté locale qui est en cause, mais c'est plutôt le cadrage national, voilà, qui a fait des deux côtés qu'on n'y est pas arrivé. Je suis persuadé qu'on pourra remettre l'ouvrage sur le métier, parce que c'est une meilleure méthode, celle-là, même si elle est imparfaite. Et j'ai entendu beaucoup de remarques du président Rigal. Même si elle est imparfaite, elle est meilleure que le rabot indifférencié. Et puis, mais ça a été dit par d'autres, et notamment par le président Vessouz, les dotations d'équipement, effectivement, elles sont là au rendez-vous. On le voit aujourd'hui. Mais c'est normal pour aider à faire en sorte que la ruralité, loin d'être sacrifiée, s'incarne par des équipements publics qui font notre honneur. Je veux terminer juste par 2 mots. Solidarité d'abord. J'ai parlé des enjeux terribles qui sont devant nous. Et évidemment, on a un défi qui n'est pas facile, celui de la solidarité. Alors la solidarité, c'est un mot qu'on aime bien, sauf quand parfois on comprend qu'elle va demander à nous des exigences pour aider les autres. Or la solidarité, c'est souvent ça. Solidarité entre les générations, ce n'est pas un sujet lotois, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'on peut être fier du fait que pour la première fois en France, depuis 15 ans, nous avons cessé de financer sur la tête de nos enfants la santé des générations actuelles. Puisque vous saviez que l'assurance maladie était en déficit depuis 15 ans, et il a fallu les efforts de plusieurs gouvernements pour que nous arrêtions ce scandale, qui était que nous nous soignions, nous, en nous endettant sur la tête de nos enfants. Ça, c'est de la solidarité. Il y aura des sujets de solidarité difficiles sur l'âge, à l'avenir, retraite, dépendance. Nous avons aussi, mais je n'y reviens pas parce qu'on l'a déjà un peu évoqué, sur le climat et sur l'eau, des questions difficiles à affronter. Et encore une fois, il s'agit de solidarité. Je l'ai dit dans le cadre des Assises de l'eau la semaine dernière, je le redis ici. Le prix de l'eau est un indice qui est très imparfait. Quand on ne paye pas cher l'eau, peut-être qu'on ne la paye pas au bon prix. Quand on la paye cher, c'est pas forcément qu'on la paye au bon prix. Mais quand on la paye pas cher, parce qu'on a la possibilité d'aller l'acheter à d'autres au lieu d'entretenir ses propres captages, ou quand on bénéficie d'un équipement qu'on n'entretient pas, alors on ne paye pas le bon prix. Le bon prix de l'eau, c'est celui qui, à l'échelle d'un territoire, et à mon avis le plus large possible, notamment que les Lotois payent un prix de l'eau à peu près comparable, mais même plus largement sur notre territoire, qu'on garantisse que c'est un prix qui permet aussi d'entretenir les réseaux et là aussi de veiller aux générations futures. Solidarité enfin entre les territoires. Nous avons dans le Lot la chance d'avoir avec Action Cœur de Ville un programme national qui tient compte de ce que sont les villes moyennes. J'en profite pour dire, quelques-uns m'ont entendu le dire, que je suis parfois perturbé quand on parle de la ruralité parce que, évidemment, le Lot, ce n'est pas faire injure aux parties les plus rurales de notre département. Il est rural, mais il n'est pas que rural. Et quand on défend la ruralité contre les métropoles ou la ruralité contre les villes, je pense qu'on se tire un peu une balle dans le pied. Est-ce que c'est la ruralité contre Cahors, la ruralité contre Figeac, la ruralité contre Martel, la ruralité contre Souillac, ou est-ce que c'est plutôt, pour un département comme le nôtre, essayer d'inventer un avenir qui n'est pas celui des métropoles, ça c'est vrai, mais qui doit énormément interchanger et coopérer avec les métropoles et les villes d'équilibre. Et donc le maire de Cahors parle parfois de Cahors comme d'une ville d'équilibre plutôt que d'une ville moyenne, je pense qu'il a raison. Et il faut qu'à l'échelle du département lui-même, nous travaillions à ces équilibres-là. C'est ce que font certaines des intercommunalités qui, parce qu'elles ont un ressort large, essaient de travailler sur des pôles d'équilibre en leur sein, et je pense qu'elles ont raison. J'avais dit deux mots. Le dernier mot, c'est celui de coopération. Alors, il a été évoqué toute la matinée à propos de la coopération intercommunale. Je suis très frappé de voir la force positive de la coopération dans ce département. Je ne devrais peut-être pas mettre à l'honneur, mais je vous rencontre de temps en temps les acteurs des fermes de Figeac ou de l'association Ségala-Limargue. On est dans un ressort où je peux en parler, monsieur le maire. Je vois cette espèce de machine à énergie positive que sont ces gens ancrés dans leur territoire qui essaient de travailler de façon positive à ce que ça marche avec les autres, malgré les défis, malgré les difficultés, etc. Et j'avoue que je suis très impressionné par ça et que je suis parfois plutôt inquiet quand je vois que d'autres ne conçoivent leur épanouissement et leur grandissement personnel qu'en s'opposant, en étant contre, en s'opposant aux autres territoires. Je pense que les premiers ont raison et que les seconds aient tort, et que les premiers font énormément de bien au Lot depuis longtemps, et que les seconds pourraient faire beaucoup de mal au Lot si l'état d'esprit restait celui d'une opposition contre l'étranger proche, au lieu de se demander s'il vaut mieux pas coopérer entre nous. Il y a plein d'exemples très positifs de ça. Et peut-être pour terminer, je pense que ça balaye un peu les questions de carte administrative. C'est-à-dire qu'on a parlé des bassins de vie ce matin. Quelqu'un, il y a quelques jours, me disait finalement la bonne question, c'est les territoires vécus. Quels sont les territoires sur lesquels on vit effectivement ? Et vous avez évoqué, monsieur le professeur, le fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de bassin de vie puisqu'on veut être à la fois ici et en même temps interconnecté au reste du monde. Alors, on va l'être grâce à l'hôte numérique au reste du monde très, très bientôt, et on l'est déjà beaucoup par l'amélioration de la couverture numérique. Mais finalement, on veut être à la fois dans sa commune et on veut être connecté avec des espaces beaucoup, beaucoup plus grands. Les services, et notamment les services aux personnes, on ne les trouve pas et on ne les trouve plus depuis longtemps sur le seul territoire de la commune. Donc, vouloir dire que tout devrait se passer dans la commune peut faire des effets de tribune, bien sûr, et à l'approche des élections, ça peut servir. Mais ça n'est pas être honnête vis-à-vis des élus eux-mêmes que de le dire. Et donc, je ne vous le dis pas. Tout ne peut pas se passer à l'échelle de la commune. Et il faut absolument que vous travailliez entre vous à des échelles qui sont parfois plus larges. On peut être à la fois de la Capelle Marival, très heureux dans le Grand Figeac, dans le Lot et dans l'Occitanie, et puis, accessoirement, continuer à se sentir heureux d'être français. Et donc là non plus, n'opposons pas les cadres et les échelles, mais essayons plutôt de les faire travailler ensemble. Le maire de 2018, il n'a rien à voir avec le maire de 1980, ni même avec celui de 2030, et je pense qu'il ne ressemble pas encore beaucoup à celui de 2030. J'ai dit 1930, 2030. Il ne ressemble pas à celui de 2030. Ce maire-là, c'est celui que vous allez inventer, vous, ensemble, notamment lors des prochaines élections. Soyez sûr, en tout cas, que l'État sera toujours à votre soutien pour accomplir votre mandat de maire. Honneur aux élus, vive la République et vive la France.
Merci, Monsieur le Préfet. Il me revient donc de conclure ce congrès, vous remerciant pour vos interventions, la qualité des échanges. Il y a des éléments aussi un peu techniques. On me dit qu'un bracelet a été perdu, donc c'est Karine Alicot qui l'a, plutôt un bracelet femme, a priori. Je pense que l'organisation plaide effectivement pour qu'on poursuive sur cette volonté de moderniser notre congrès, mais je sais, et je veux reprendre à Jean-Claude, qu'il y a des éléments sur lesquels nous n'avons pas le droit de transiger. Et donc, je vais vous inviter à rejoindre le gymnase pour vous restaurer. Et je le remercie de nous permettre de continuer à nous humidifier. Et je ne pensais pas, évidemment, qu'autant. Merci.